Nous recevons aujourd'hui un collectif d'habitants hein, de Montcuq, Bouloc, Lebreuil,
Lozerte et les environs, Lebreuil aussi. Oui.
D'accord, en fait c'est par rapport au parc photovoltaïque industriel qui est prévu. Hein.
C'est ça, ce projet industriel sur la commune de Montcuq en l'occurrence. Ouais. Commune de Montcuq en Quercy-Blanc, donc un regroupement de plusieurs communes depuis quelques temps. Ouais. Donc une grosse commune en fait. Avec un gros projet industriel.
Vous avez créé ce collectif suite à ce projet
dans le studio, donc il y a Pascal, il y a Bernard, il y a Jean-Philippe et il y a moi, Blaise. Absolument, ouais. Donc il s'agit là d'un collectif, pas d'une association, donc un collectif d'habitants créé spontanément quand on a su fortuitement qu'il se passait ces choses-là tout près de là où on habite. Donc un collectif d'habitants qui regroupe des gens qui sont opposés au projet, en l'occurrence. Mais malgré tout, ça reste un collectif, donc on ne parle pas d'une seule voix. Il peut y avoir dans notre collectif des gens qui ont des avis, des opinions différentes sur certains points. Et ça, c'est très riche d'ailleurs, parce que justement, ça permet de réfléchir différemment et d'avoir une pluralité d'idées et de réflexions qui nous enrichit tous quand on se voit et quand on débat ensemble, etc. etc. Et chacun parle en son nom malgré tout dans ce collectif, quoi.
C'est pour avoir une meilleure réflexion finalement, hein, une intelligence commune.
Absolument.
Voilà.
C'est la ligne qui est la nôtre et on aimerait bien qu'elle soit largement plus répandue, cette intelligence collective, parce qu'aujourd'hui, on fait le constat, nous, mais on va en parler plus loin tout à l'heure, plus profondément tout à l'heure, je pense, qu'il y a très peu de moments où les gens peuvent effectivement se rencontrer, débattre ensemble, réfléchir ensemble, apporter des avis différents et du coup, à force de cette conflictualité ou de ces controverses constructives, enrichir et le débat et le questionnement, quoi.
Alors, je crois que tu avais du coup un texte à nous lire hein,
ouais.
que tu avais écrit.
Effectivement, donc pour faire suite à ce que je viens de dire, j'ai fait une contribution nominative, donc en mon nom, Blaise, à l'enquête publique, donc qui est en cours en ce moment sur ce projet. Et donc j'ai contribué et j'ai aussi, lors de la réunion de samedi dernier à Bouloc, la réunion publique et le débat public, j'ai aussi lu cette contribution-là, voilà, j'ai même fait une petite annexe. Ça a le mérite de mettre à plat, en tout cas, les problématiques que nous, on amène, quoi. Contribution à l'enquête publique, publiée le 14 mars 2022 sur le site internet registrenumérique.fr/photovoltaïque-montcuq-photosol. C'est un peu rébarbatif, mais en tout cas, il faut savoir que voilà, il y a moyen à distance d'intervenir sur le registre en fait légal de l'enquête publique. Donc contribution à l'enquête publique, projet industriel photovoltaïque sur 66 hectares de terres agricoles productives à Montcuq en Quercy-Blanc, par Blaise, membre du collectif d'habitants de Montcuq, Bouloc, Lozerte et des environs. Les observations et commentaires sur le support numérique ici présent ne sont en rien représentatifs du très grand mécontentement des gens sur le terrain, c'est peu dire. Et ce mécontentement général est rassurant. Nous distribuons depuis quelques semaines des centaines de tracts sur les marchés de Montcuq, Lozerte et Montaigu, ainsi qu'en d'autres endroits de la région. Il y a une très bonne réception vis-à-vis de notre démarche d'information et de sensibilisation des populations. Mais les personnes qui reçoivent notre invitation à la réunion et au débat public du 19 mars sont très en colère. Elles sont très en colère car c'est par notre tractage, c'est-à-dire fortuitement, qu'elles découvrent l'existence de ce projet industriel si impactant pour notre environnement et ce pour de si longues années. Décennies. Elles sont très en colère car elles comprennent qu'on ne les a absolument pas consultées en amont, ni pour les informer, ni pour les prises de décision. Elles sont très en colère car elles se rendent donc compte qu'elles en ignorent complètement tous les tenants et les aboutissants. Quant aux autres personnes déjà au courant de l'existence de ce projet, elles sont également très en colère car elles ont déjà pris conscience de l'ampleur de cet impact. Les seules personnes qui expriment une agressivité certaine à l'encontre de notre démarche d'information lors de nos tractages sur le terrain sont des personnes directement et pécuniairement concernées par ce projet, ou bien aussi des élus, vexés que leur inaction et leur inefficience soient ainsi révélées au grand jour. Il ne faut pas oublier que ce projet de Montcuq est le premier d'une très longue liste de projets censés recouvrir et coloniser des centaines et des centaines d'hectares dans les communes voisines. Ce premier projet de Montcuq s'est construit dans la plus grande discrétion. Aucune réunion publique n'a été organisée en amont par les instances publiques officielles pour informer la population. Et c'est justement pourquoi il a pu percer et passer les premières étapes administratives. Les projets des autres communes, plus récents, mais très discrets, eux aussi, ont quant à eux été découverts assez tôt et souvent par hasard. Il faut dire que nous étions déjà en alerte. Des collectifs d'habitants très déterminés sont alors nés spontanément et leur très récente et laborieuse action d'information, juxtaposée à la celle de la très pugnace et rigoureuse association Environnement Juste, ont permis d'informer une plus grande partie de la population de l'existence de ces projets. C'est cette population si récemment informée qui est aujourd'hui légitimement en colère. Et c'est cette toute nouvelle prise de conscience qui ralentit l'avancée de ces 10 projets. Mais le projet de Montcuq, lui, c'est la tête de pont. C'est celui sur lequel doit se concentrer dans un premier temps notre lutte commune, celle des habitants en colère qui ne veulent pas qu'on leur impose à leur insu des sites industriels, ni ici, ni ailleurs, qui dévasteraient encore et toujours plus la biodiversité, les écosystèmes et l'environnement des sites concernés dans leur globalité. Si légitime veut dire quelque chose, alors voilà une cause juste et légitime. L'enquête publique pour les permis de construire du projet industriel de Montcuq a déjà démarré. Le projet avance pas à pas, sournoisement, mais nous l'arrêterons. Car ce type de projet insensé condamne ce qu'il nous reste de nature, qu'elle soit cultivée ou à l'état sauvage, comme si on n'en avait pas déjà assez détruit comme cela. Fini la nature. Pouf, pas rentable, adjugée, vendue. Mais par contre, de l'électricité à gogo, à Saoui, partout dans nos petites prises électriques à nous. De l'électricité bien propre, bien renouvelable, bien neutre, bien belle, bien high-tech, bien verte, bien vertueuse. Et pourquoi toute cette électricité? Pour faire avancer nos petites voiturettes électriques, par exemple, toutes propres, toutes belles, toutes branchouilles, et qui vont sauver la planète, bien sûr. De qui se moque-t-on? Il n'y a là aucune cohérence écologique, rien que des mesurettes cosmétiques verdâtres, cramoisies, sonnantes et trébuchantes, mais rien qui puisse rationnellement arrêter la course folle et autodestructrice dans laquelle nous sommes pris. Ces projets sont tout sauf écologiques, ils sont tout sauf propres. Ces projets ne sont rien de moins que des projets industriels repeints en vert. Et la fabrication de ces énergies dites renouvelables est factuellement destructrice et dévastatrice de l'environnement. L'extraction industrielle dévastatrice de tous les minerais. L'extraction industrielle dévastatrice des métaux rares. L'extraction industrielle dévastatrice des terres rares. Les traitements chimiques industriels hyper toxiques et polluants de ces matières. L'assemblage industriel des matériaux et composants, le transport industriel de ces assemblages, les installations industrielles des sites de production, la propagande médiatique industrielle et bien sûr son corollaire, la déresponsabilisation industrielle des populations par le mensonge, le greenwashing et la démagogie de masse. Et enfin, mais nous y sommes déjà malheureusement habitués, les conditions désastreuses et dévastatrices d'exploitation de tous les travailleurs précaires, souvent misérable, de toutes ces filières industrielles. La dévastation est industrielle, elle est totale. Rien de propre là-dedans, rien qu'une histoire de très gros sous comme d'habitude. Tout ça pourquoi? Pour notre petit confort et notre surconsommation dégoulinante. Pour le PIB et bien sûr pour l'intouchable et sacro-sainte croissance. Encore et toujours elle. Et il reste donc encore des gens prêts à croire le premier pompier pyromane qui se présente venu pour vendre une pseudo-solution technologique magique qui sauverait la planète, donc leur conscience, mais surtout leur petit confort. Un peu trop facile, non? Il est temps de dire stop, la Terre brûle. Arrêtons de prendre des vessies pour des lanternes et regardons les choses en face avec un peu d'honnêteté et de courage intellectuel. Remettons en question une bonne fois pour toutes ce confort et cette surconsommation qui détruisent tout. Cette remise en question de notre mode de vie n'est pas négociable. George Bush père, à la conférence de Rio de 1992, avait lui prétendu que notre mode de vie n'est pas négociable. Donc, cette remise en question de notre mode de vie n'est pas négociable. Il en va de notre avenir commun et de celui de la Terre tout entière. Posons-nous, atterrissons. Et posons-nous enfin individuellement et collectivement les questions cohérentes qui adviennent, pourtant si logiques et pourtant si simples. Quels sont nos réels besoins fondamentaux, individuels et collectifs? Quelles sont les différentes formes de consommation, individuelles et collectives, à inventer ou à réinventer? Et ensuite seulement, quelle production, quelle quantité? Et bien sûr, comment voulons-nous vivre ensemble? La Terre va mal, elle brûle. Si l'on veut stopper la destruction en cours, il faut faire quelque chose et ne plus regarder en spectateur le désastre se réaliser devant nous. Il nous faut faire quelque chose individuellement, certes, mais surtout collectivement. Nous sommes obligés individuellement et surtout collectivement de changer nos modes de vie. Nous sommes obligés individuellement et surtout collectivement de changer nos modes de consommation. Moins de consommation égale moins de production. Nous devons réfléchir ensemble à tout ça. Nous devons mutualiser. Par exemple, nous pourrions créer des coopératives villageoises d'entraide et de solidarité dans chaque village. Par exemple, nous pourrions créer des lieux non marchands d'échange et de partage dans chaque village. Nous pourrions aussi tout faire pour aider à relocaliser une nouvelle activité économique, tant sur la forme que sur le fond, dans chaque village. Et seulement alors, nous pourrons produire différemment ce qui nous est absolument utile et nécessaire, y compris l'énergie. RTE, le gestionnaire du réseau de transport de l'électricité, dans son dernier rapport du 16 février 2022, intitulé « Futur énergétique 2050 », prévoit une augmentation de 35% de la production d'électricité par rapport à 2020, soit 645 TWh annuels. Il est temps de dire stop à cette folle croissance, à ce toujours plus. Il est temps de dire stop à ces projets fous qui veulent recouvrir et coloniser toujours plus de nature. Il est temps de dire stop au projet de Moncuq. Cette lutte collective ne fait que commencer. Que vivent ces questionnements, que vivent les riches débats et que vive la démocratie réelle.
Donc en parlant de débat, oui, vous aviez fait un débat samedi 19. Comment ça a été accueilli par les personnes qui sont venues ?
Il y a eu un très très bon accueil en fait, que ce soit des gens pour ou des gens contre. Beaucoup de questions. Bon, ça fonctionnait sur le tour de parole, donc chacun pouvait s'exprimer. Et voilà, il y a eu beaucoup de questionnements. C'est resté quand même bonne ambiance, on va dire. Ça aurait pu être un peu plus tendu parce qu'on voilà, n'était pas tous d'accord. Mais bon, je pense que les gens sont repartis avec l'information qu'ils cherchaient. Et voilà, nous ont vraiment remerciés pour cette première initiative. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Il y en a déjà très prochainement une seconde, le 1er avril.
Donc il y a des gens qui ont été surpris par ce projet ?
Oui.
Oui ?
Oui, oui. Il y a des gens qui ont été vraiment surpris de savoir que ça allait passer à proximité de leur habitation et de l'ampleur surtout de ce projet.
Alors, pour rappel, c'est un projet donc solaire, de parc solaire industriel, agrivoltaïque en fait. Donc, agrivoltaïque, c'est la coexistence de production électrique significative et production agricole, elle aussi significative, sur la même emprise foncière. Donc, est-ce que quelques moutons qui broutent les herbes sous l'ombre des panneaux solaires, est-ce que c'est une production agricole significative ?
Non, je ne pense pas que ce soit une production significative. C'est plus une production industrielle d'électricité que une production des moutons. Vu la rareté des herbes qui vont pousser sous les panneaux et le manque d'irrigation déjà, parce que c'est le truc qu'ils ont mis en évidence, c'est l'eau qui sera prise sur la Sorre en plus. Donc il faudra renforcer tout le réseau, prendre déjà une eau qui est rare. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'herbes pour pouvoir alimenter, nourrir ces pauvres moutons.
Finalement, faire de l'étiquette verte, finalement, si c'est pour aller puiser de l'eau qui va devenir rare d'ici quelques années, si on continue comme ça, où est l'étiquette verte ?
C'est ça. Et en plus de ça, on peut dire que l'eau est déjà très rare sur le Quercy, là où on est. Il y a souvent des restrictions d'eau parce que voilà, il y a la sécheresse, il y a la canicule. Et il faut bien dire que là, non seulement on remplit 5 cuves d'incendie pour éteindre des incendies éventuels sur cette centrale, mais qu'en plus de ça, on fait des mares au-dessus, sur le plateau, toujours en les remplissant, des mares avec un volume très conséquent, donc des mares à l'air libre, avec l'évaporation qu'on connaît, etc. etc. Et, chose incroyable, cette eau vient de la Sorre, c'est-à-dire de l'eau potable pour tout ce projet qui va non seulement... il va falloir, si vous voulez, planter des haies pour faire de l'intégration paysagère tout autour de ces panneaux qui s'étalent sur 66 hectares. Et il va falloir faire pousser ces arbres, toujours avec la même eau. Il va falloir les entretenir pendant de longues années, en espérant que ça tienne le coup. Et c'est de l'eau de la Sorre. C'est vraiment le comble quand on sait à quel point l'eau est rare déjà aujourd'hui sur nos plateaux, quoi. C'est phénoménal, c'est fou, quoi. Il faut être sur place pour comprendre l'absurdité, l'aspect démesuré de ce projet.
Hein. Oui, donc il va y avoir donc deux mares, deux ou trois mares, je ne sais plus.
Trois mares. Ouais.
Trois mares, et donc cuves incendies avec de l'eau potable.
C'est incroyable. C'est avec de l'eau potable. Et les mares, alors les cuves, une fois qu'elles sont remplies, il va falloir les remplir de temps en temps un petit peu, mais les mares, c'est de l'eau à l'air libre. Donc,
c'est ça, donc il va y avoir l'évaporation.
L'évaporation et plein d'autres. En tout cas, il va falloir les remplir en permanence, quoi. Parce qu'elles vont se vider, parce qu'elles vont servir aussi à, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, à nourrir, à arroser les arbres, et puis à nourrir les ovins, les ovins qui seront sur le projet de 66 hectares. Donc, la question que vous posiez en amont, il s'agit par rapport à l'agrivoltaïsme, un joli terme poétique tout nouveau. Même des gens qui défendent le projet savent très bien qu'il s'agit là d'un alibi, d'un alibi pour finalement produire des dérogations, pour contourner les textes de loi qui stipulent tout à fait qu'il est totalement impossible de construire des projets industriels photovoltaïques sur des sols, par rapport à la préservation des sols, pour la non-artificialisation des sols. Et donc, il y a une dérogation possible, et évidemment, on s'est engouffré dans la brèche. Et donc, on a essayé de produire coûte que coûte des projets agricoles soutenables sur ces parcelles. Et donc, avec cette dérogation pseudo-agricole, évidemment, ça passe les fourches codines des textes de loi et de administratifs. Et du coup, oui, on peut, du coup, d'un seul coup, occuper des terres cultivées ou sauvages pour mettre des centrales industrielles, quoi. Enfin, on le fait au nez à la barbe de tout le monde, finalement, parce que maintenant on est au courant. Mais c'est vraiment se moquer. C'est une insulte à l'intelligence, en fait. C'est vraiment se moquer des gens, quoi. Parce que tout le monde sait très bien que ce n'est pas soutenable comme projet.
Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est les agriculteurs, finalement, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner?
Oui, donc je prends le relais, là. Les agriculteurs, ben, c'est surtout qu'ils louent leur terre à un prix très conséquent, donc c'est le seul gain qu'ils ont, hein. C'est pas...
Oui, ce sont pas les plus bio de la région, hein. C'est des gens qui ont 1500 hectares, 800 hectares, etc., etc., qui, en ce moment, tous leurs champs qui sont en préparation sont tous orange, d'une couleur orange qu'on connaît malheureusement trop bien, et c'est pas des gens qui ont un passé, disons, bio ou écologique de renommée locale. Et d'un seul coup, ils ont un sursaut de préoccupation écologique, bien sûr, à raison de 2 000 ou 3 000 euros par an l'hectare.
D'accord, oui, donc c'est vraiment la rentrée financière par rapport à la location de la terre pour y installer les panneaux. Au niveau rendement, finalement, ça rajouterait rien à leur rendement. Ça le diminuerait plutôt ?
Le rendement, enfin, si on fait par rapport aux moutons, là, les moutons sur une terre qui est agricole, quoi, qu'il n'y a pas de panneau ni rien, je crois que c'est 10 moutons hectares. Et là, ça serait ramené à 2 moutons hectares. Vous voyez à peu près la rentabilité, quoi. C'est oui, plutôt voilà. Qu'il faudrait leur amener du foin à manger aux moutons, en plus.
Donc, du coup, le côté production significative, il disparaît complètement.
Complètement.
À un moment donné, ils ont parlé aussi de mettre des ruchers et tout, mais là, c'est pareil. L'herbe aura du mal à pousser, les fleurs encore plus. Et en plus, il faut savoir que dans cette zone, il y a pas mal de surface en lavandin et qu'on est déjà, on arrive à saturation au niveau des ruchers par rapport au nombre d'abeilles, quoi. Enfin, au nombre de ruches.
Oui, donc là, ça serait plutôt pour verdir un peu plus l'image du parc.
Oui, c'est pour verdir, mais ça n'a aucun intérêt. On n'a pas besoin des panneaux pour... pour installer les ruchers, ils y sont déjà, les ruchers.
Par rapport à l'environnement, hein, tout ce qui est espèces sauvages, vont devoir se décaler ou avoir une population qui diminue parce que les panneaux solaires vont trop les déranger et elles vont être perdues.
C'est ça. Mais y a une
leur niche va disparaître.
L'étude d'impact de Photosol elle-même pointe bien justement une quantité d'espèces qui sont bousculées, qui sont menacées, qui sont déjà en voie de disparition, etc. etc. Alors, encore une fois, comme le disait Pascal tout à l'heure quand nous sommes venus, nous ne sommes pas des experts. L'enquête publique a été annoncée seulement 15 jours avant son démarrage, avec 1000 pages de dossiers hyper techniques à consulter. Il y a des gens parmi nous qui n'ont pas reçu de salaire pendant 2 semaines pour essayer justement de préparer tout ça, etc. etc. Je veux dire, c'est encore une fois un passage en force. 2 semaines avant une enquête publique, pondre 1000 pages de dossiers super techniques où il faut avoir vraiment des compétences d'experts, d'ingénieurs, etc., etc., pour tout comprendre. Et voilà. Donc, si vous voulez, c'est problématique. Par rapport à la question précédente sur l'alibi agricole, il faut savoir que Photosol n'a aucun scrupule à dire qu'ils vont aider financièrement, ils vont aider l'agriculteur qui est censé s'installer dans ce parc magnifique entouré de grillages, où il va devoir d'ailleurs au quotidien travailler derrière, dans ses panneaux photovoltaïques. C'est charmant, c'est pittoresque, c'est bucolique de tous les jours savoir qu'on va aller s'enfermer derrière des grillages. Et il faut bien savoir que Photosol n'a aucun scrupule à dire officiellement qu'elle va aider l'agriculteur à s'installer, lui payer ceci, lui payer cela, lui payer ceci, lui payer cela. Et donc, comme projet agricole, il n'y a là rien, finalement, qui soit un projet qui soit productif de manière significative, puisqu'il y a une somme astronomique d'argent qui arrive de l'extérieur pour pouvoir faire en sorte que coûte, ce projet soit viable. Et cerise sur le gâteau, il faut savoir qu'il y a déjà des tentatives de projets similaires en France, et que maintenant que les projets agricoles sont obsolètes, ont périclité, eh bien, les projets, la centrale photovoltaïque, le parc industriel photovoltaïque, lui, continue, puisque c'était tout simplement un alibi pour faire passer la pilule. Et une fois que le projet a périclité, on en a pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, quoi. Les bails emphytéotiques sont de 40 ans, là.
Oui, voilà, en fait, ce qu'il faudrait, c'est peut-être une réglementation sur ces parcs photovoltaïques industriels, hein, une véritable réglementation pour éviter que ce soit le Far West. Parce que là, c'est un peu la ruée vers l'or, mais de l'énergie, finalement.
C'est ça, oui. Il y a un très bon courrier de la Chambre d'agriculture du Gers, oui, du président ça. Du Chambre d'agriculture du Gers, qui stipule vraiment qu'il s'agit là de projets complètement bordéliques. Finalement, au petit bonheur la chance des propriétaires privés qui sont prêts à installer ce genre d'installation sur leur terre, et qu'il n'y a aucune cohérence, aucune cohésion réelle anticipée de ces projets les uns avec les autres, et que c'est vraiment, encore une fois, il dénonce, c'est très explicite dans son courrier, je ne l'ai pas devant
moi.
Oui,
voilà, après il dit que l'activité agricole ne saurait être la justification brandie pour autoriser des projets se contentant d'organiser un partage d'usage sous couvert d'un agri-photovoltaïsme, donc fantasmé, pour plus sporadiquement viser à l'accès d'une dérogation aux principes généraux d'urbanisme et se placer dans la compétition à l'accès à l'injection au réseau électrique. Le dilemme qui se pose aussi, c'est que souvent ces parcs agri-photovoltaïques, ils vont les mettre donc loin des villes. Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est créer tout un réseau pour acheminer l'électricité. Donc tout ça, est-ce que c'est vert?
Voilà, la réponse est dans la question.
Je pense que le béton n'est pas trop vert.
Oui, mais non, il y a des travaux absolument faramineux qui sont prévus, qui sont dans l'étude d'impact. Hein. On a quand même si on n'est pas des experts, on a quand même bien compris en lisant ces pages que c'était phénoménal. En termes de béton, ne serait-ce que pour le poste source, il est même question d'implanter sur place une micro-usine de fabrication de béton pour ne pas justement faire venir trop de camions, et donc de faire sur place une production locale de béton sur place, pour, ne serait-ce que pour le poste source. Il faut savoir que le poste source, puisqu'on en parle d'ailleurs, théoriquement ce projet il est sur 63 000 volts, et que là, les deux transformateurs qui vont être dans le poste source en question sont en capacité de produire du 94 000 volts. Ce qui veut dire que le projet, il est encore, et bien sûr, agrandissable. On peut, une fois qu'on a mis le pied dans la porte et fait passer un projet, évidemment, taper du pied chez le voisin et lui dire « ça ne vous intéresserait pas de gagner 3 000, 5 000 euros par hectare, etc. etc. » Et du coup, le projet s'agrandit. Et évidemment, la structure est déjà prévue pour, mais ça, évidemment, comme toujours.
Alors après, il y a l'ADEME, c'est l'Agence de la Transition Écologique. Elle voudrait en fait une définition plus précise de l'agrivoltaïque, hein, avec une vision plus restrictive. Ce qu'elle aimerait, c'est un apport sans intermédiaire de services, et ce, sans induire la dégradation importante de la production agricole, ni la diminution des revenus issus de cette production. Alors est-ce que c'est possible, d'après vous, ça?
Non, le le problème des terrassements et de tout ce qui va impacter la pose et la construction de tout va détruire toute la faune et la flore déjà très précaire sur ce territoire. Plus tout ce qui va impacter les clôtures électriques qui vont le gibier, ainsi de suite, bon, mais j'en passe. Et ainsi de suite, connaissant tout ce que incombent les travaux publics, le terrassement et tout ce qui vont les routes, l'infrastructure pour acheminer tout le matériel, ainsi de suite, toute la dégradation que ça va faire. D'ailleurs, ils ont déjà même commencé à décimer un chemin gallo-romain qui s'appelle le Clermontois. Ils l'ont déjà détruit sur presque 1 km. Donc, on voit bien ce qu'ils peuvent faire avec. Ils ont éradiqué tous les arbres, donc l'habitat de la faune et de la flore qui est déjà très précaire à cause l'agriculture chimique. Ça continue, ça va être un peu plus d'ampleur. On connaît déjà, j'invite les gens à venir voir sur le site déjà tous les dégâts qui ont commencé à être faits.
Voilà, le Clermontois qui est quand même, c'est notre patrimoine finalement.
Exactement.
Ah ben c'est notre patrimoine qui est au moins 2000 ans et il a subsisté jusqu'ici pendant 2000 ans et maintenant il est détruit pour de l'industrialisme et ainsi de suite.
Par rapport à la question, parce que ça c'était une réponse à la question précédente, mais par rapport à la question que tu viens de poser sur l'ADEME et sur sa programmation finalement d'installer des énergies la production d'énergie type photovoltaïque sur les toits, sur les parkings, etc., etc., sur les terrains déjà artificialisés. Nous, au collectif, on a abordé ces problématiques-là. Et pour nous, ce qui semble très important, c'est de remettre les bœufs avant la charrue. C'est-à-dire que, c'est un peu ce qui a été dit dans le texte tout à l'heure d'ailleurs, avant de produire plus, il faut déjà redéfinir les besoins réels fondamentaux. Et ensuite, savoir comment on va consommer. Individuellement, certes, puisqu'on est dans une société individualiste aujourd'hui, tout le monde peut faire un petit effort, ceci, cela, cela, ceci. Ça participe de la culpabilisation aussi des gens qui sont en capacité ou pas en capacité de faire cet effort-là ou de ne pas faire cet effort-là. Mais surtout aussi changer au niveau collectif, de pouvoir être en mesure de prendre des décisions au niveau collectif, local, pour savoir comment consommer, et quels sont nos réels besoins. Voilà, donc en fait, si vous voulez, après seulement, et ça on pourrait largement approfondir le sujet, parce que d'ailleurs c'est passionnant, il y a plein de choses très, très enrichissantes et très excitantes finalement qui seraient charriées par ce genre de nouvelles dynamiques collectives locales, mais seulement après, on pourrait effectivement commencer à penser et à produire différemment de l'énergie, tout en pensant, encore une fois, au projet depuis le tout début, c'est-à-dire depuis la production de ces technologies dites renouvelables, vertes, etc., etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un désastre écologique dans les pays d'extraction des minerais. On connaît des gens qui nous disent « oui, moi, ça ne me dérangerait pas d'avoir des panneaux devant chez moi ». Ouais, c'est peut-être, si on a bien regardé, si on a regardé beaucoup de films d'Hollywood, c'est branchouille, c'est futuriste, c'est chouette, c'est l'avenir, c'est machin, mais si on regarde le projet depuis le début, et on ne peut pas dissocier les choses comme ça, à un moment donné, il faut regarder les choses au début. La production de ces technologies dites renouvelables produit à la base, mais par exemple pour les terres rares, vous avez des mers de boues infertiles, parce que les terres rares, déjà, elles sont rares pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup, elles sont rares parce qu'il faut remuer énormément de terres pour pouvoir en extraire un tout petit peu. Une fois qu'on a extrait ce tout petit peu de terre, il faut traiter, si vous voulez, les matières extraites, mais c'est par millions de mètres cubes, hein. On parle là d'une destruction massive de la nature, de la terre, hein. Eh bien, il faut traiter de manière très polluante avec des traitements chimiques, très polluante et très toxique finalement toutes ces terres. Et les rejets sont des rejets de boue complètement stériles. Mais ça arrive en France et on appelle ça c'est vert, c'est beau, c'est propre, c'est 100% neutre, c'est vertueux. Il y a une grosse arnaque qui est aujourd'hui très connue par rapport au crédit carbone. C'est-à-dire que ces technologies qui sont aujourd'hui dites vertueuses, alors que quand on regarde en amont, c'est vraiment horrible ce qui se passe, eh bien, elles donnent aux grosses entreprises qui sont derrière, elles donnent des crédits carbone, donc des crédits positifs. ces crédits carbone positifs leur permettent de réaliser ce qu'on appelle une compensation. Mais à quoi ça correspond, en fait, quand on y regarde de plus près? C'est une compensation qui leur permet de continuer de saccager avec des crédits carbone négatifs, on dira, de continuer de saccager, finalement, la nature. C'est-à-dire que des deux côtés de la balance, on saccage, on détruit. D'un côté, on a décidé que c'était propre, vertueux, beau, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. De l'autre côté, on admet que c'est un saccage et une destruction totale de la nature. Et puis, on fait de l'argent des deux côtés. Mais d'un seul coup, les deux s'annulent. Ah, on est 100% neutre. Non, mais encore une fois, on se moque des gens. On n'est pas si bête que ça, quoi, quand même. Sauf qu'on est mal informé. Et pour nous, c'est important, c'est l'information.
Voilà, c'est ça, c'est vraiment l'information. Après, quand tu parlais de champs, en fait, hein, de terrain complètement boueux, moi, l'image qui m'est venue de suite, hein, c'était le lithium, en fait, hein, par exemple. Hein. On a tous un téléphone portable, une batterie, et cette batterie, elle fonctionne avec du lithium. Et je vous invite, hein, auditeurs, auditrices, à aller voir un peu ces minerais de lithium, à quoi ça ressemble. Donc, c'est vraiment un désastre.
C'est très intéressant. De toute façon, dans cette émission de radio, nous n'aurons pas l'occasion d'aborder en profondeur tous les sujets. C'est justement aussi un de nos constats, c'est qu'on est en manque complet de collectif et donc de débat, et donc on ne peut pas en une heure aborder en profondeur tous les sujets. Mais par rapport au problème de la cohérence, effectivement, on a tous... On est né dans un système, je disais tout à l'heure individualiste, mais on est né aussi dans un système industriel, un système industrialiste. L'industrialisme, c'est un rapport social. C'est-à-dire qu'on existe aujourd'hui que par le fait de consommer. Naturellement, on consomme tout, mais là, en l'occurrence, ce qu'on nous propose ne sont finalement que des produits transformés par l'industrie. Et donc, oui... Il y a une incohérence individuelle de fait. On ne peut pas être cohérent dans cette société industrielle par rapport à des valeurs de préservation de la nature. Ce n'est pas possible. Si on pouvait être cohérent, ça se saurait. On irait tous dans cette voie-là et puis basta, quoi. On arrête de se prendre le chou et puis on y va, quoi. Mais ce n'est pas possible d'être cohérent individuellement dans une société où tout est industriel. Donc... Plutôt que de culpabiliser justement individuellement sur « ah ben je fais ça, je suis pas cohérent, machin, etc. », ce qui finalement neutralise la controverse, neutralise le débat, eh bien, posons-nous collectivement, créons des lieux de rencontre, de débat, créons les conditions de la rencontre pour pouvoir savoir d'abord un peu plus, s'informer un peu plus, débattre, réfléchir ensemble et on est soi-disant capable d'aller sur la Lune, on peut très bien arriver, entre êtres humains, un jour, à reprendre contact les uns avec les autres et finalement aborder des questions qui, semble-t-il, sont quand même pas si complexes que ça, quoi. On n'est pas, il n'y a pas de fatalité. Si on est résigné, alors c'est la destruction finale, totale du monde, parce que là, on est vraiment dans le mur, quoi. Il n'y a plus de doute là-dessus.
Voilà, un peu de sobriété énergétique pourrait faire du bien à tout le monde.
Absolument. Tellement de sobriété d'ailleurs, parce qu'on est noyé dans la surconsommation. C'est insupportable. On pourrait relocaliser des activités économiques différentes. Mais c'est... En fait, on marche sur la tête. Et tout le monde le sait, mais on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Mais c'est pas vrai. Si ça part des gens, et cette enquête publique d'ailleurs, c'est un des leviers de cette lutte. Hein. Si on est fataliste et si on est résigné, c'est sûr, c'est foutu. Parce que là, aujourd'hui, en 2022, tout le monde est d'accord, on est dans une machine folle qui détruit tout. Et voilà. Si on est résigné, ben, c'est chacun pour soi, on essaie d'en profiter un petit peu avant que l'apocalypse arrive et qu'on ait tous un masque à gaz sur la tête et qu'on s'étripe tous les uns les autres. Ou bien on réagit constructivement pour un autre avenir, pour s'émanciper de ce système dans lequel nous sommes nés, on n'a pas choisi d'y naître. Hein. Et voilà, et je pense que c'est pas compliqué. On peut y arriver, absolument. En tout cas, c'est possible. Voilà, est-ce qu'on va y arriver ou pas? Ça, c'est autre chose. On ne sait pas. Ça dépend de nous, ça dépend de notre implication individuelle et collective, quoi. Me battre. Nous sommes la résistance.
femmes.
Après, l'ADEME, dans ses définitions plus précises de l'agrivoltaïque, hein, en fait, elle voudrait aussi une amélioration du bien-être animal ou alors un service agronomique précis adapté aux besoins des cultures. Donc, est-ce que c'est possible dans le contexte de parcs photovoltaïques, ça ?
Bah non, je ne pense pas que ce soit possible de faire de l'agriculture et de l'énergie en plus, quoi. Parce que déjà, ils évoquent le truc des moutons parce que c'est des animaux qui se contentent
de
terres pauvres. Et oui, de peu, mais apparemment, si c'est 10 animaux hectares et qu'on passe à 2 animaux hectares, je ne vois pas bien l'intérêt. C'est juste pour... C'est encore à revenir sur le truc et dire que c'est pour déguiser de l'agriculture en énergie et que des industriels prennent le pouvoir sur les populations locales et décident pour nous de ce qu'on doit vivre et eux faire des bénéfices là-dessus.
C'est primordial qu'il y ait à la base une prise de conscience des habitants, et pour ça il faut être informé, et que suite à cette prise de conscience et à cette information, les gens prennent en main leur présent et leur avenir, et que ce soit eux qui décident. On a aussi, nous, en tant qu'habitants et en tant que population, une grosse part de responsabilité. C'est aussi parce qu'on laisse faire ces gens-là, prendre des décisions à notre place, que effectivement ces gens-là, pleins d'une pseudo-légitimité, prennent ces décisions à notre place. Et alors, on a aussi notre part de responsabilité.
Là, ils auraient pu vraiment la prendre à notre place à 100% s'il n'y avait pas eu votre collectif Environnement Juste qui aurait ouvert un peu, enlevé nos œillères pour qu'on puisse savoir que le projet existe.
Il faut savoir qu'il y a maintenant, puisque les projets en question sont multiples par chez nous, là, ça va, il y a plus de... Alors là, j'ai l'affiche. En face de moi, la dernière affiche toute fraîche de l'association Environnement Juste, qui parle de 398 hectares de terres agricoles. Voilà. Soit 568 terrains de rugby, là, sur les quelques communes environnantes. C'est de la folie. C'est ouais, de la folie.
C'est énorme.
Et donc, oui, effectivement, maintenant qu'on a mis, on a commencé à être alerté et on a mis en alerte pas mal de gens, les gens sont attentifs. Et effectivement, il y a le superbe travail de l'association Environnement Juste qui fait un travail phénoménal, hein, phénoménal. D'information, de décortiquage des documents, etc., etc. Mais oui, il y a aussi notre collectif, puisqu'on a distribué près de 2000 tracts sur les marchés locaux et dans d'autres endroits encore. Et il y a aussi maintenant, spontanément, un peu partout, des collectifs qui sont en train de naître. Et encore une fois, nous, par exemple, samedi dernier, lors de notre réunion, on avait invité tout le monde. On n'a pas fait de tri à l'entrée. Il se trouve... que voilà, c'est assez symptomatique quand même. Il se trouve que la plupart des gens qui sont venus étaient des gens contre ce projet. Il se trouve que Photosol n'était pas là. Photosol a refusé de venir.
Oui, il y a eu une demande qui a été faite.
Ah, oui, une demande. On nous a répondu, c'est super votre truc, enfin de manière un petit peu surplombante, que c'était super ce qu'on faisait, qu'ils espéraient que le débat serait serein, mais qu'eux, ils ne pourraient pas venir parce que de longue date, ils avaient pris un rendez-vous ailleurs et qu'ils ne pouvaient pas être là. Donc, ils arrivent avec un projet qui va occuper nos sols, pendant les sols des territoires sur lesquels on habite pendant 40 ans, avec un budget de 31 millions d'euros. Mais ils ne prennent pas la peine, pour la deuxième fois, de se déplacer pour nous expliquer c'est quoi leur projet, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un mépris complet. Et pourtant, sur leur site internet... ils parlent d'une synergie avec le monde agricole. ils prétendent avoir 100 spécialistes à notre service, etc., etc. Mais bon, les 100 spécialistes, samedi dernier, ils étaient tous occupés. Je ne sais pas, ils étaient aux Seychelles ou je ne sais pas où. Enfin, ils étaient quelque part, en tout cas. Mais ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas avec nous. Ils ne nous ont pas expliqué le projet. Non, il y a vraiment un mépris de ces gens-là par rapport à nous, quoi. Donc, finalement... qui sommes-nous par rapport à eux ? On n'est pas conséquents.
Ouais, parce que je rappelle, hein, y a 3 demandes de permis de construire sur 84 hectares de terres agricoles en phase finale d'enquête publique, donc pour Montcuq. On peut retrouver du coup l'enquête publique sur le site lot.gouv.fr. La clôture, c'est à 17h le 8 avril, donc j'invite les auditrices et les auditeurs à s'y rendre pour s'informer aussi. Et donc il y a l'association Environnement Juste avec France Nature Environnement Midi-Pyrénées et la Confédération Paysanne qui vont aussi proposer une réunion publique le 1er avril à 20h.
À Montcuq, à la salle d'animation de Montcuq. Ouais.
D'accord, à la salle d'animation de Montcuq.
À l'espace animation de Montcuq à 20h, ouais.
Donc voilà, après vous pouvez me demander plus d'informations hein, sur enquête@montcuq.com, enquête@montcuq.com.
Pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer à l'enquête publique, puisqu'il ne reste plus que le samedi 2 avril 2022 de 9h à 12h, et le vendredi 8 avril 2022 de 14h à 10h pour une consultation de l'enquêteur public en direct à la mairie de Montcuq. C'est possible d'envoyer un courrier, c'est possible de déposer un courrier, c'est possible d'intervenir sur le site. Alors là, je vais essayer de le dire complet, mais on peut le retrouver très facilement. www.registre-numérique.fr/photovoltaïque-montcuq-photosol. Donc là, on peut faire une contribution directe. Et on peut aussi écrire au mail photovoltaïque-montcuq-photosol@mail.registre-numérique.fr. C'est tellement plus simple de se parler en direct que par ces biais-là. Mais bon, quand on ne peut pas faire autrement, voilà, ça existe. Et il y a même une visioconférence, c'est à la mode, qui reste le mercredi 23 mars 2022 avec une prise de rendez-vous au moins 48 heures à l'avance sur le site que je viens de citer là. Voilà.
Qu'est-ce que vous pourriez dire hein, à nos auditeurs et nos auditrices ?
Donc, moi, je trouve que c'est pas inclus dans le paysage, c'est une artificialisation du sol et ça s'ajoute déjà aux sols qui sont bitumés ou bétonnés, quoi, qu'on augmente chaque année. Voilà, c'est mon point de vue.
Est-ce que ce ne serait pas plus rentable, même pour ces grosses sociétés, hein, finalement, de couvrir plutôt les zones commerciales ?
Oui, de couvrir les zones qui sont déjà,
bétonnées.
Bétonnées, oui. C'est ça, moi, je le vois comme ça, plutôt.
Oui, il y en a suffisamment. Il y en a suffisamment, des friches, enfin, les zones industrielles ou commerciales.
Des parkings.
Donc, ce qu'on aimerait aussi, c'est que les gens prennent conscience, y réfléchissent, parce qu'il faut faire quand même assez vite, que ça puisse permettre à tout le monde de penser à discuter avec son voisin, ou venir nous rejoindre. Enfin bon, il y a plein de solutions, mais il faut vraiment, vraiment
faut
savoir
bouger.
Ce que l'on veut, quoi.
Parce qu'après, il me semble qu'en plus, la zone qui est prévue sur Montcuq, c'est une zone nature. Donc
Oui.
si le parc se fait sur cette zone-là...
Eh bien, il y a un changement de destination des terres, là. D'ailleurs, la SAFER aurait pu être sollicitée. Bon, il y a toujours le projet agrivoltaïque qui permet justement des dérogations, hein, agrivoltaïque, agricole. Mais on a essayé de montrer que c'était un alibi. Par rapport à ces terres, c'est des terres vraiment, des paysages absolument magnifiques, magnifiques. Franchement, hein, il y a des randonnées, tout le monde va là-bas. C'est vraiment des terres ou cultivées ou vierges, mais absolument splendides. Et c'est tellement fort de se promener sur ces terres-là. On a du mal à croire qu'il y a des gens qui veulent venir installer ces trucs-là. C'est insupportable d'ailleurs, comme image de savoir que ça va être... Parce que la nature, c'est quand même... aussi une innovation extraordinaire. La nature, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Je veux dire, ok, on peut être fasciné par la technologie, ok, on peut être fasciné par les prouesses technologiques, etc. Mais la nature, c'est quand même partout, à chaque centimètre carré, c'est quand même que du bonheur, c'est quand même magnifique. Et là, il se trouve que c'est très préservé. On a l'impression que ces gens-là, ils regardent sur Google Earth ou Google Maps, là, et qu'ils voient où il y a encore de la place pour pouvoir faire de l'argent. Ah ben tiens, là, il y a de la place, on va aller voir les agriculteurs, on va faire des sous, machin, etc. etc. Et en fait, à la fin du truc, on aura de l'électricité partout, mais on n'aura plus de nature. On n'en aura plus rien. Mais même si elle n'est pas cultivée, cette nature, la nature sauvage, elle a le droit d'exister aussi. Enfin, je veux dire... De quel droit on occupe tous ces sols là, enfin, c'est n'importe quoi.
C'est détruire la biodiversité.
Ouais.
Vous voulez rajouter quelque chose?
Je disais que les populations locales ont le droit de décider de leur avenir et de leur vivre au quotidien sur ces terres, qu'elles soient pauvres ou riches, mais sur nos terres qui sont depuis toujours à nous et que personne ne doit venir prendre des décisions, surtout pas des industriels, à notre place, comment on doit vivre chez nous.
Mais le maire, il n'est pas là pour ça, justement.
Ah là, vous abordez, je ne sais pas si on a encore le temps. Mais... a priori, samedi dernier, il n'y avait pas d'élu, aucun élu.
Aucun élu n'était présent.
Si, Jean-Philippe, qui est là avec nous dans le studio, c'était le seul. On en est là, hein. Et nous, on a organisé cette réunion vraiment par nos propres moyens en 2 semaines. Et on nous a loué la salle, on ne nous l'a pas prêtée, alors que la commune de Boulogne, par exemple, ça se passait à Boulogne, à la salle des fêtes de Boulogne, la commune de Boulogne, elle est directement sollicitée par le préfet pour que la commune puisse donner son avis, puisqu'elle est limitrophe au projet. Mais non, on a estimé que, je ne sais pas ce qu'on a estimé, mais en tout cas, il y a 2 ans, on avait fait une réunion similaire sur ce projet-là. La première réunion, la salle nous avait été prêtée. Et cette année, il a été décidé par le maire du village que non, il nous l'a dit comme ça, hein, qu'il avait décidé finalement que la salle nous serait louée. Voilà.
Après, il existe des conflits d'intérêts ou pas sur ce projet?
Un projet de 31 millions d'euros, on peut se poser la question. On peut se poser la question. Nous, on n'est pas dans les petits papiers de tout le monde. Après, voilà, nous, on n'est pas là pour faire la diffamation. Nous, on rebondit sur des faits, quoi, et sur notre ressenti. Et ça, c'est tout à fait légitime. Si conflit d'intérêts, corruption, etc., etc., ça existe partout sur la planète, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas chez nous non plus. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Voilà. Mais on n'est pas là pour accuser les individus. Encore une fois, les individus sont comme nous, pris dans leurs contradictions, pris dans dans un parcours de vie qui fait qu'à un moment donné, on peut faire une erreur. Nous, on n'est pas là pour accuser des gens. On n'est pas là, on n'est pas les gentils contre les méchants. On est juste là pour dire stop à la folie furieuse du système dans lequel on vit. Quoi, voilà.
Voilà, vous demandez de la transparence.
Ouais, par exemple, ouais, bien sûr.
Alors après, si des gens veulent du coup rejoindre ce collectif, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter?
On est complètement informel. Nous, on invite les gens à faire leur propre collectif chez eux, dans leur village. Il y a tellement de choses à faire merveilleuses. Et voilà, nous, on n'est pas là pour apporter des solutions. On propose des... On fait des choses, nous, entre nous. Ça fonctionne, ça nous réunit, ça nous fait plaisir. Mais on n'a pas du tout la prétention d'exister formellement. On n'a pas du tout la prétention d'apporter des solutions aux autres. Ce serait encore une fois participer à la déresponsabilisation des autres. Donc que chacun, effectivement, comme disait Pascal tout à l'heure, aille voir son voisin. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Mais il y a tellement de choses à faire extraordinaires et tellement simples. Et sinon, évidemment, ceux qui le veulent peuvent adhérer à l'association Environnement Juste, hein, qui, elle, est une association formelle. On précise que nous, on n'est pas de l'association Environnement Juste. Mais voilà, on se côtoie, parce que la lutte, ça fédère, et on se côtoie depuis un certain temps maintenant. Et on ne peut qu'inviter les gens à adhérer à l'association Environnement Juste, qui font un boulot transparent, pour le coup, mais alors on ne peut plus transparent, et qui est visible sur Internet, et adhérer à cette association, oui, bien sûr.
Voilà, et donc pour rappel, hein, l'association qui fait une réunion publique le 1er avril à 20h à l'espace animation de Montcuq, avec la participation de France Nature Environnement et de la Confédération Paysanne. Donc c'est le 1er avril à 20h. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez envoyer un mail à enquête@montcuq.com, enquête@montcuq.com. Je vous remercie.
Merci.
Merci.